Et merci à vous de nous rejoindre sur les ondes de Médien. Nous sommes toujours ensemble sur Médien.com également. Et ce matin, je le disais, on parle également du pacemaker. Alors, c'est ce dispositif implanté dans l'organisme et qui a pour rôle de fournir des impulsions électriques. Objectif, stimuler donc les muscles cardiaques. Alors, pour en parler, pour essayer de comprendre donc ce dispositif, professeur Ahmed Bennis est avec nous en direct depuis Casablanca. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes professeur en cardiologie, je le rappelle. Alors d'abord, le pacemaker, c'est quoi ?
Alors le pacemaker, pace, c'est rythme, stimulateur. C'est pacemaker, c'est-à-dire c'est celui qui donne le rythme cardiaque.
D'accord.
Pace, c'est rythme. Et maker, c'est donner. Et donc c'est un stimulateur de l'activité cardiaque. Et lorsque une personne, en particulier les personnes âgées, ont des rythmes longs, trop longs, qui va des rythmes qui vont descendre moins de 50 voire 40 battements par minute avec un bloc de conduction entre les oreillettes et les ventricules,
oui.
À ce moment-là, on va envisager de poser un pacemaker, c'est-à-dire ce qu'on appelle un stimulateur cardiaque.
D'accord.
Donc ce sont les personnes qui vont souffrir d'un ralentissement du rythme cardiaque,
oui.
Et qui vont avoir des fatigues importantes, des vertiges, voire une perte de conscience, qui ont du mal à effectuer des efforts physiques, ou un essoufflement, voire ils vont avoir un malaise ou une perte de connaissance, et qui vont avoir une fréquence cardiaque trop faible pour amener assez d'oxygène au cerveau. Et à partir de là, on pose l'indication de mettre un pacemaker, un stimulateur cardiaque, qui va stimuler le cœur et qui va envoyer des impulsions électriques dans le but de relancer une fréquence cardiaque normale.
D'accord.
Donc, alors généralement, mais on a d'autres types de stimulateurs cardiaques. Le pacemaker n'est qu'un des dispositifs qu'on va mettre au niveau du cœur, parce qu'il y a d'autres types de stimulateurs cardiaques qui sont pour d'autres indications.
D'accord. Alors justement, avant de parler de contre-indication, est-ce qu'on peut parler de risque, docteur professeur Bennis?
Alors, le pacemaker, c'est un petit boîtier,
oui.
Qui est en titane,
oui.
Qui est d'environ 5 mm, qui va peser entre 25 et 30 grammes, et qui va être constitué d'un circuit électrique et d'une pile au lithium. Hein, donc, il va être connecté au cœur grâce à plusieurs sondes qui vont contenir des fils électriques, d'électricité, et qui vont délivrer l'impulsion quand il y a une détection de l'absence de battement. Ce sont ce qu'on appelle des pacemakers intelligents. Voilà. Mmh. Donc, et généralement, ils ont une durée de vie de 10 à 15 ans. Et en général, les pacemakers sont faciles à implanter. Ça nécessite une hospitalisation de 24 à 48 heures. C'est fait sous anesthésie locale. La durée d'intervention est généralement d'une heure. Et généralement, il est positionné au niveau du muscle pectoral, sous la clavicule, hein, vous voyez. Alors, généralement, il y a deux sondes, ça se fait par une veine du bras. Et lorsque les sondes sont bien positionnées, à ce moment-là, le pacemaker va être implanté, connecté, les sondes vont être connectées au pacemaker. Alors, il y a des complications, mais qui sont rares en général. Ils sont rares, on peut avoir une infection du boîtier, une infection de la sonde, on peut avoir un déplacement de la sonde, mais tout ça, c'est des complications extrêmement rares parce qu'on a de plus en plus d'expertise, on a de plus en plus de personnes qui ont de l'expérience et qui savent absolument mettre des pacemakers, qui savent les implanter, qui savent suivre les patients, qui connaissent les bonnes indications. Et avec le bon suivi, bien sûr, des patients, à ce moment-là, on a beaucoup moins d'effets secondaires.
D'accord. Alors, est-ce qu'il faut se préparer en amont ? Et si oui, comment se préparer justement, professeur Bennis ?
Alors, c'est un séjour hospitalier qui va durer de 2 à 4 jours.
Oui.
Alors, en général, il y a certaines équipes qui le font en ambulatoire, c'est-à-dire on entre le matin et on rentre et on sort le soir. Alors, le patient va être hospitalisé et généralement, on peut ressentir une petite douleur qui est généralement légère et généralement c'est fait sous anesthésie locale et en général une légère sédation. Alors parfois, on peut, c'est rare de faire une anesthésie générale. Alors pour implanter les sondes, on a un accès du réseau veineux qui est nécessaire, donc qui va permettre l'arrivée de dans l'oreillette droite et par la suite, ça va être dirigé vers le ventricule droit et avant qu'il voilà. Il y a une incision de 4 cm réalisée sous la clavicule à l'épaule et donc en fonction des préférences généralement. De l'opérateur, ça dépend, soit on va utiliser la veine céphalique, soit la veine sous-clavière. Les centres sont positionnés sous contrôle de la radiologie, sous contrôle radioscopique, grâce à un appareil de radiographie qui est adapté. Mmh. Une fois, ils sont fixés dans le cœur, à l'endroit estampé, on va donc vérifier leur bon fonctionnement, donc ce qui va atteindre le bon contact. Et ceci est vérifié au bloc grâce à un analyseur qui est muni d'un câble stérile.
D'accord.
Donc ces sondes vont être connectées au stimulateur et ce qui va être cela va être introduit dans une poche sous-cutanée ou sous-musculaire dans la région sous-claviculaire. Et la durée d'intervention, comme je l'ai dit, est variable, en généralement de 30-45 minutes. Voilà. Donc c'est une procédure simple. Il y a quelques complications. Parfois, il y a un déplacement de l'une des sondes dans les premiers jours, ce qui va nécessiter une reprise de repositionnement. Il y a des infections qui sont précoces, qui vont obliger le retrait de tout le matériel. On peut avoir un petit hématome, c'est-à-dire une petite collection de sang qui est un saignement interne, souvent très limité et donc généralement enlevé. Et parfois, on a des rares cas de pneumothorax, de décollement du poumon lors de la ponction sous-clavière, ce qui va nécessiter parfois une évacuation d'air. Mais je le rappelle encore une fois, c'est des complications assez rares avec l'expertise des équipes.
Très bien. Alors, que faut-il éviter lorsqu'on a ce dispositif donc implanté dans l'organisme, professeur Benis?
Alors, généralement, le fonctionnement est extrêmement fiable et précis.
D'accord.
Il y a vraiment de rares anomalies matérielles. Alors, juste après l'implantation, il est important de surveiller la cicatrice.
Oui.
Et d'informer le médecin en cas de rougeur, de gonflement ou de saignement. Durant les 24 premières heures, il faut éviter tout mouvement brusque de l'épaule qui est à éviter. Et donc, il est préférable de ne pas plus raidir son épaule afin d'éviter l'ankylose, hein, donc il faut faire vraiment des mouvements doux pour reprendre la mobilité, ce qui est recommandé. Pendant le premier mois, il faut éviter le port d'objets lourds, hein, une activité physique intense, et progressivement, on va reprendre une vie normale. Et puis, il y a tout le suivi, donc, après la pose du pace. Donc, on va donner un carnet qui sera remis au porteur du pacemaker, qui va donner pratiquement une carte d'identité des informations sur le dispositif implanté. Il doit être autant que possible conservé sur soi. Donc, il faut le porter tout le temps. Et un suivi spécialisé va être instauré pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil. Recueillir, il y a une mémoire de l'appareil et surveiller l'usure de la batterie. Généralement, la batterie va durer de 10 à 15 ans. Et ce suivi va comporter ce qu'on appelle des mesures télémétrique, hein, donc par un ordinateur dédié au pacemaker, généralement dans le centre où l'appareil a été implanté ou par le médecin qui a implanté le pacemaker. Et donc on va faire un petit contrôle qui va être fait de 4 à 8 semaines après la pause. Et en fait, on va voir, la personne va être vue chaque année, donc chaque 6 ou 12 mois, selon l'état de la personne. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas avoir une indication du pacemaker. L'indication est une indication médicale. C'est une indication qui est posée par le médecin cardiologue. Quand il remarque qu'une personne qui est âgée en général, parfois ça, c'est comme la batterie de la voiture. Quand la batterie de la voiture est épuisée, à ce moment-là, il faudrait mettre un stimulateur, la changer. Et donc, ça dépend de chaque cas. Et à ce moment-là, il faut poser le diagnostic. Le diagnostic est fait par le médecin cardiologue sur le fait que le pouls, la fréquence cardiaque est lente. C'est un pouls lent permanent avec une fréquence cardiaque qui va descendre autour de 40, moins de 40 battements par minute.
D'accord.
Il n'y a plus de conduction entre les oreillettes vers les ventricules. Il y a un bloc auriculo-ventriculaire, c'est-à-dire les oreillettes ne conduisent plus l'activité électrique aux ventricules. Les ventricules ne reçoivent plus assez de sang parce que le cœur est trop lent et par conséquent, le cœur ne va pas répondre aux besoins de l'organisme. Il va y avoir une fatigue, un essoufflement et le sang ne va pas arriver au cerveau, donc il y a risque de perte de connaissance. Et par conséquent, à ce moment-là, on fait le diagnostic soit par électrocardiogramme de surface, soit par un enregistrement du cœur sur 24, voire 48 heures, voire 72 heures. Parfois, on met même un enregistrement implantable sur lequel on voit que le cœur ne conduit pas pendant un certain moment, qu'il y a des pauses qui vont dépasser 3 secondes. À ce moment-là, il y a des risques et à ce moment-là, on pose l'indication du pacemaker. Alors, j'insiste sur le fait, je pense qu'on va en parler, sur la vie avec le stimulateur qui est aussi
important. Et ce serait vos conseils, voilà. Que serait cette conduite à tenir justement pour toutes ces personnes qui nous écoutent? Ce sera vos conseils pour finir, professeur Benis.
Alors, la présence du stimulateur doit être le plus souvent, le plus possible oublié, c'est-à-dire qu'on peut mener une vie normale avec certaines précautions. Le téléphone, qu'il soit avec fil ou sans fil, ne pose aucun problème. Pour les portables cellulaires, il peut y avoir une interférence des ondes qui est prise en compte et généralement on leur recommande une utilisation à l'oreille opposée du côté du stimulateur. Si vous avez le stimulateur à droite, il vaut mieux utiliser le téléphone à gauche.
D'accord.
À la cuisine, il y a le problème des fours à micro-ondes, les plaques de cuisson électriques ou les robots de cuisine ne posent généralement aucun problème. Seules les plaques de cuisson à induction qui génèrent un faible champ magnétique. Et dans ce cas-là, il est recommandé de garder une certaine distance. Et puis pour le bricolage, par exemple, les perceuses, les scies électriques ne posent pas de problème. Pour les magasins, les voyages, les portiques anti-vol des magasins ou des bibliothèques peuvent être traversés sans problème. Donc il est recommandé de ne pas s'y arrêter. Et les voyages ne sont pas, bien sûr, contre-indiqués. Pour l'avion, les portiques d'aéroport pourraient théoriquement être traversés, mais sont interdits pour des raisons de responsabilité et de principe de précaution. C'est pour ça que la personne doit montrer sa carte de porteur du pacemaker quand il va traverser des portiques d'avion ou d'aéroport. D'accord. Et les détecteurs manuels plus puissants sont à éviter, ce qui justifie sa carte de porte de pacemaker. Et le pacemaker ne contre-indique pas, bien sûr, la conduite automobile ni la ceinture de sécurité. Alors, pour le sport, le pacemaker ne limite pas les activités sportives en dehors de la pratique de sport un peu intensif, comme les raquettes ou le sport intensif, le golf par exemple. Il faut éviter de se suspendre par exemple à une barre en extension. Au travail, certaines postes à proximité des moteurs à champ électromagnétique ou avec champ électro-aimant peuvent élever à certaines précautions. Et le port de stimulateur est compatible avec la plupart des métiers. Donc voilà un peu les précautions. Alors à l'hôpital, là, en chirurgie, on peut utiliser le bistouri électrique dans la plupart des opérations. Mmh. Et ça impose parfois certaines précautions, donc les réglages préopératoires du stimulateur et une limitation d'intensité du bistouri. Pour l'imagerie, pour la radiologie, la radiographie classique, le scanner ne pose pas de problème. En revanche, l'IRM génère un très puissant champ magnétique. Il ne doit pas être réalisé que dans des centres spécialisés en accord avec le cardiologue et le radiologue. Pour la radiothérapie, ça peut être parfois nocif pour certains dispositifs, mais avec un faible taux d'accident, et donc il faut faire des contrôles réguliers. Mais en général, tout ça va être compatible avec une vie normale.
Très bien. Professeur Ahmed Menis, vous êtes professeur en cardiologie à Casablanca. Merci beaucoup. Vous étiez avec nous en direct depuis Casablanca. Merci à vous, professeur.
Bonne journée. Au revoir.
Très bonne journée. C'est un entretien réécoutable sur notre site medien.com.